Vous êtes à l'écoute de la Radio du Monde, RFI, 6h à Paris, 4h en temps universel. Bonjour Alban Le Prince.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
L'actualité internationale à la une de votre journal, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent en Thaïlande et en Birmanie.
Trois jours après le séisme qui a fait plus de 1700 morts, l'aide internationale arrive au compte-gouttes et en Birmanie, en pleine guerre civile, les frappes contre les rebelles ont déjà repris. Nous irons également à Damas, en Syrie, où les autorités kurdes contestent la légitimité du nouveau gouvernement, une équipe qui ne tient toujours pas compte de la diversité syrienne, selon l'administration. Les explications dans ce journal. Au sommaire également le Niger qui se retire de la FMM, la force multinationale mixte dédiée à la lutte anti-djihadiste dans le bassin du lac Tchad. Nous verrons pourquoi. Et puis alors que Donald Trump accélère sur les droits de douane avec de nouvelles annonces attendues mercredi, l'Union européenne menace de riposter dans son viseur le bourbon américain, ce qui inquiète les producteurs du Kentucky. La course contre la montre continue en Birmanie et en Thaïlande trois jours après le séisme qui a fait au moins 1700 morts. Bilan encore très provisoire. Les opérations de recherche de survivants se poursuivent dans la région de Mandalay notamment, qui paie le plus lourd tribut et où la terre a encore tremblé hier. Symbole du désastre, la junte militaire fait appel à l'aide internationale, mais les secours arrivent difficilement, même si des équipes venues de Chine, de Hong Kong, d'Inde ou encore des Philippines ont été envoyées ce week-end. Pendant ce temps, la guerre civile et les frappes contre les rebelles continuent, Joris Zilberman.
C'était quelques heures à peine après le séisme vendredi. 7 rebelles, dont 5 femmes, ont été tuées dans une frappe de la junte. 5 avions gouvernementaux ont attaqué une base de l'armée de libération du peuple Danu dans le district de Naungcho. C'est l'un des groupes appartenant à une minorité ethnique de l'état Shan qui se trouve loin de l'épicentre du tremblement de terre à la frontière nord-est du pays. Nos soldats ont essayé de rejoindre les bunkers lorsqu'ils ont entendu le bruit des avions, a indiqué le représentant du groupe rebelle. Pour Tom Andrews, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme, larguer des bombes après un séisme est tout simplement ahurissant. Surtout, si les frappes continuent, cela risque d'empêcher un accès le plus ouvert possible à toutes les zones sinistrées, qu'elles soient contrôlées par l'armée ou par les rebelles. Dans sa lutte pour garder le contrôle du territoire national, la junte birmane a depuis un an et demi subi un grand nombre de revers et elle a perdu le contrôle d'une partie importante du pays. Son seul avantage stratégique, la supériorité aérienne, grâce à des avions de combat de son principal fournisseur, la Russie.
Et notez que l'Organisation mondiale de la santé a annoncé avoir déclenché son système de gestion des urgences. Le bureau de la coordination humanitaire des Nations unies a de son côté envoyé 17 camions remplis d'abris et de matériel de secours. La Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge et du Croissant Rouge a quant à elle lancé hier un grand appel pour récolter en urgence plus de 100 millions de dollars. Vous pouvez faire un don sur le site croix-rouge.fr. Au Proche-Orient, deux jours après l'annonce par le président syrien par intérim d'un nouveau gouvernement, l'administration autonome kurde, qui contrôle une vaste partie du nord et du nord-est du pays, conteste sa légitimité. Un gouvernement pourtant censé rassurer, composé d'une majorité de cadres de la coalition de rebelles islamistes sunnites qui a renversé Bachar al-Assad en décembre, mais aussi d'un druze, d'un kurde, d'un alaouite et d'une femme chrétienne. Manon Chaplin, correspondante de RFI à Damas.
C'est dans un communiqué que l'administration autonome kurde du nord et de l'est syrien s'est exprimée hier suite à l'annonce du nouveau gouvernement. Cette dernière conteste la légitimité de ses 23 ministères et regrette, dit-elle, un gouvernement qui ne tient toujours pas compte de la diversité syrienne. Conséquence, l'administration autonome kurde dit ne pas se sentir concernée par les décisions de ce nouveau gouvernement. Cette dernière avait déjà critiqué la déclaration constitutionnelle publiée mi-mars. Elle accorde les pleins pouvoirs au président dans les domaines législatifs, exécutif et judiciaire. Même si la plupart des postes régaliens ont été distribués à des fidèles d'Ayat Tahrir al-Sham, dont est issu le nouveau pouvoir de Damas, le signal politique envoyé par Ahmed al-Shara est celui de l'union. Il a fait le choix d'intégrer au sein de son gouvernement un alaouite, une chrétienne, un druze et un kurde, mais ce dernier n'est aucunement lié aux forces démocratiques syriennes qui contrôlent le nord-est de la Syrie. Cette déclaration est un nouveau pied de nez au compromis conclu mi-mars qui prévoit d'intégrer les institutions de l'administration autonome à l'État syrien. De nombreux analystes craignent désormais que cet accord ne voit jamais le jour. Manon Chaplin, à Damas, RFI.
La situation en Syrie évoquée hier par Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou lors d'un entretien téléphonique 2 semaines après la reprise des bombardements dans la bande de Gaza. Le président français a exhorté le premier ministre israélien à mettre fin aux frappes et revenir au cessez-le-feu alors que de nouveaux bombardements ont fait au moins 17 morts hier à Khan Younes. Dans le même temps, Benjamin Netanyahou a appelé le Hamas à déposer les armes. Notez également que le Croissant Rouge palestinien a annoncé hier avoir retrouvé les corps des 15 secouristes tués selon lui par des tirs de l'armée israélienne il y a une semaine à Rafah. Les représentants d'une quarantaine de pays réunis à Londres à partir d'aujourd'hui. Le Premier ministre Keir Starmer organise un sommet de 2 jours consacré à la lutte contre l'immigration clandestine. Au menu des discussions, la collaboration entre les pays pour démanteler les réseaux de passeurs, comprendre comment fonctionnent les filières, leurs équipements, les faux papiers qu'ils utilisent pour faire entrer les migrants illégalement. Il sera aussi question du phénomène des small boats, les embarcations de fortune utilisées depuis le début de l'année par plus de 5 800 personnes pour traverser la Manche, un nouveau record. Il est 5h06 à Niamey. Le Niger se retire de la force multinationale mixte, annonce faite samedi par les autorités qui veulent redéployer leurs troupes sur d'autres objectifs. La FMM dédiée à la lutte anti-djihadiste dans le bassin du lac Tchad, composée de troupes nigérianes, tchadiennes et camerounaises. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. En 2023, déjà au lendemain du coup d'État, le Niger avait annoncé son retrait avant de reprendre sa coopération militaire 1 an plus tard. Alexis Guilleux.
Officiellement, Niamey indique que son retrait de la force multinationale mixte a pour but de renforcer, je cite, la sécurisation des sites pétroliers menacés par les groupes armés. Les autorités nigériennes disent vouloir mettre l'accent sur la protection des ressources d'hydrocarbures dans la région de Diffa, alors que l'oléoduc qui achemine le pétrole brut vers le Bénin est régulièrement attaqué. Plusieurs attaques ont été revendiquées par des rebelles Toubou qui demandent la libération du président renversé Mohamed Bazoum et le rétablissement de la constitution. Ces derniers mois, les sabotages se sont multipliés à la frontière avec le Nigeria. Même si le sujet n'a pas été mentionné samedi soir, Niamey soupçonne Abuja de tentatives de déstabilisation et reproche aux autorités nigérianes de ne rien faire pour empêcher ces incidents le long de l'oléoduc. Mais selon plusieurs observateurs, ce retrait serait symptomatique des difficultés des forces armées nigériennes. En seulement 6 semaines, 3 attaques attribuées à Boko Haram ont ciblé leur rang, faisant 25 morts et des blessés. Ce retrait du Niger est un coup porté à la force multinationale qui signe aussi la fin des échanges d'informations sur les mouvements des djihadistes, toujours actifs et qui circulent facilement entre les frontières poreuses du bassin du lac Tchad.
Alexis Guilleux. Aux États-Unis, J-2 avant ce qui est présenté comme le Liberation Day, le jour de la libération. La Maison Blanche passe à la vitesse supérieure à partir de mercredi. Elle doit annoncer de nouveaux tarifs douaniers réciproques quelques jours seulement après avoir déjà officialisé une hausse des droits de douane sur les voitures fabriquées en dehors des États-Unis. Des mesures contre lesquelles l'Union européenne promet de riposter en visant certains produits américains comme le bourbon, déjà boycotté par une grande majorité des magasins canadiens. Une guerre commerciale qui inquiète les producteurs, comme l'a constaté Edouard Maille dans le Kentucky.
Après les cuves et les tuyaux, le bourbon est presque fini. Reste plus qu'à vieillir dans un fût en chêne. Et à l'automne dernier, la petite distillerie Boundary Oak a exporté pour la première fois son whisky en Lituanie, avec l'espoir de continuer en France, en Allemagne ou en Pologne. Mais c'était avant la guerre commerciale. Brent Boudin est le propriétaire.
Tous nos distributeurs, y compris celui en France, nous ont dit qu'ils allaient attendre de voir ce qu'il se passe avec les droits de douane avant de continuer, vu que l'Europe était un nouveau marché. Cela n'a pas eu de conséquences importantes pour nous, mais on souhaitait vraiment vendre là-bas. C'est surtout décevant.
95% de la production mondiale de bourbon provient du Kentucky, une immense industrie pour l'économie locale.
Évidemment, les plus grandes distilleries, celles qui sont présentes en Europe depuis longtemps, c'est dévastateur pour elles.
Mais malgré cela, les électeurs républicains ne doutent pas du président.
Je sais que c'est un président très compétent et je suis sûr que tout cela va déboucher sur quelque chose de positif. C'est un formidable businessman.
Chose rare, des élus démocrates comme républicains du Kentucky ont exprimé les mêmes inquiétudes pour l'économie de leur État. Edouard May, Radcliffe dans le Kentucky, RFI.
Donald Trump qui menace aussi la Russie de 25% de droits de douane sur son pétrole. Il pourrait intervenir à n'importe quel moment, prévient le président américain qui se dit aussi très énervé et furieux contre Vladimir Poutine sur le dossier ukrainien. Et cette nuit, c'est à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qu'il s'en est pris. Il l'a mis en garde en lui promettant, je cite, de gros problèmes s'il refusait l'accord en discussion sur l'exploitation des minerais ukrainiens. Des droits de douane de 25%, la menace est aussi formulée pour tout pays qui achèterait du pétrole vénézuélien. C'est dans ce contexte que Caracas annonce que les États-Unis ont révoqué les licences des entreprises transnationales de pétrole et de gaz qui avaient obtenu le droit d'opérer dans le pays malgré les sanctions et l'embargo visant à évincer Nicolas Maduro, le président, car le Venezuela dispose des plus grandes réserves pétrolières du monde. En France, Marine Le Pen, la patronne des députés Rassemblement National, doit être fixée sur son avenir politique ce matin. Après 2 mois de procès, le tribunal de Paris doit rendre son jugement dans l'affaire des assistants parlementaires européens, accusés d'être au centre d'un système de détournement de fonds publics européens. Elle pourrait être condamnée à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, à des réquisitions sévères sur lesquelles revient Laura Martel.
Pour le parquet, les faits sont inédits par l'ampleur des détournements, plus de 4 millions d'euros, et leur durée, 12 ans, soit une véritable entreprise organisée de détournement systématisé instituée au plus haut du parti. Fustigeant la gravité du préjudice au détriment des citoyens européens et des règles démocratiques, le parquet a demandé contre tous les élus mis en cause une peine complémentaire d'inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire qui s'applique même en cas d'appel. Les 5 ans d'inéligibilité requis contre Marine Le Pen ne la priveraient pas de son mandat de député, mais l'empêcherait de se présenter à la présidentielle de 2027. Et c'est bien là le seul objectif, a réagi la chef de file du RN qui dénonce une très violente atteinte à la démocratie. Mais le parquet, lui, s'est défendu de toute immixtion illégitime de l'autorité judiciaire dans la vie publique, car ce sont bien les parlementaires, a-t-il rappelé, qui ont créé puis rendu obligatoires les peines d'inéligibilité. Quant à l'exécution provisoire, elle doit permettre d'empêcher la récidive, qui plus est face à l'absence de remise en question des prévenus, et de faire intervenir la peine dans un délai raisonnable après des faits déjà anciens. Les ambitions électorales de certains ne peuvent justifier de faire exception aux sanctions prévues par le législateur et donc les électeurs eux-mêmes, a conclu le parquet, qui réclame l'application, comme à tous, du droit et de la loi.
Explication pour RFI signée Laura Martel. Il est 7h12 à Ankara, 11h12 à Bangkok, 4h12 en temps universel. Merci d'écouter RFI. Au sommaire de ces 20 prochaines minutes, nous irons en Turquie tout d'abord. Théâtre de manifestations d'ampleur samedi. Paris réussit pour l'opposition et les étudiants mobilisés contre l'arrestation du Kremi Mamoulou, le maire d'Istanbul et principal rival de Recep Tayyip Erdogan. Reportage dans un instant à Ankara et Istanbul. 3 jours après le séisme meurtrier qui a secoué la Thaïlande et la Birmanie, l'aide internationale et humanitaire s'organise. Elle arrive au compte-gouttes dans le pays gouverné par la junte. Nous serons avec Philippe Besson, de pompier de l'urgence internationale. L'invité culture du jour est un ovni dans le monde musical, Molécule, un DJ français qui mêle son de l'environnement et musique électronique. Dans le Conseil Santé, avec Laurence Garcia, on reviendra sur une maladie qui touche une femme sur 10, l'endométriose. Et puis le choix de la programmation musicale de RFI ce matin, c'est le franco-gabonais Benjamin Epps avec 375. Ils étaient en première ligne samedi lors des grandes manifestations qui ont secoué la Turquie pour réclamer une nouvelle fois la libération d'Ikrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, principal opposant de Recep Tayyip Erdogan, incarcéré depuis le 23 mars. Les étudiants, ils se mobilisent, débattent, manifestent pour l'élu, mais aussi pour leur avenir qu'ils estiment menacé par le régime actuel avec lequel ils ont grandi. Reportage à Istanbul et Ankara de la correspondante de RFI, Anand Lauer.
Dans l'arrière-salle d'un petit café de la capitale, Ankara, Eren se remarque tout de suite. Elle a des cheveux rouges, un anneau sur le nez, de petites lunettes noires et une façon de parler qui transforme chaque réponse en un long plaidoyer. Eren veut devenir avocate. Elle a participé à toutes les manifestations contre la détention des Kremi Mamoulou dans les rues et sur le campus de son université.
İmamoğlu birazcık o sembol oldu ve o katalizör oldu. Imamoglu est devenu un symbole et un catalyseur. Personnellement, et je pense que c'est le cas pour la plupart des étudiants, ma colère va au-delà du sort d'Imamoglu. Bien sûr que je le soutiens, il est le plus grand rival d'Erdogan pour la prochaine présidentielle et c'est sans doute pour lui que veulent voter la plupart des jeunes. Mais si je manifeste, c'est aussi parce que j'en ai assez. J'ai 23 ans et depuis 23 ans, je n'ai connu d'autres dirigeants qu'Erdogan. Je n'ai jamais vu mon pays gouverné par d'autres idées que celles d'Erdogan. Je sors dans la rue parce que les violations des droits ont commencé bien avant ce qu'ils ont fait à Imamoglu.
Eren et ses amis appartiennent à cette jeunesse turque qui s'est imposée dès le début, au premier rang de la contestation. Ces jeunes n'étaient que des enfants à l'époque de Gezi en 2013, quand des millions de manifestants s'étaient révoltés des semaines durant contre la destruction d'un parc sur la place Taksim d'Istanbul. Cette génération post-Gezi, certains la disaient apolitique. Certes, hostile à Recep Tayyip Erdogan, mais pas engagée pour autant. Pour Öcek, une autre étudiante habituée des manifestations féministes, c'est un cliché.
Non, il n'y a pas de jeunesse apolitique. Il y a une jeunesse qu'on essaie de rendre apolitique. C'est vrai que quand il y avait une manifestation et que je les invitais à participer, par exemple pour le 8 mars ou le 1er mai, la plupart répondaient « Non, je ne peux pas venir ».
Grâce au mouvement des derniers jours, Öcek veut croire que quelque chose est en train de changer.
Cela fait 4 ans que j'étudie dans une faculté de droit où les étudiants et les enseignants nationalistes pro-pouvoir sont majoritaires. Et même là, je vois que certains commencent à changer d'avis ou d'attitude, que d'autres surmontent leurs peurs et viennent manifester. Ça se fait lentement, mais sûrement. Et je pense que ça va continuer. Quelque chose est en train de se briser. Ça me donne de l'espoir.
N'aie pas peur, ne te tais pas, sinon ton tour viendra. Ces slogans ont beaucoup de succès parmi les jeunes manifestants. Anand Le Rankara, RFI.
Un reportage que vous pouvez écouter en version longue sur l'application RFI, puis radio et RFI.fr, rubrique podcast Accent d'Europe. Le contre-la-montre continue en Birmanie, 3 jours maintenant après le violent séisme de magnitude 7,7 qui a fait au moins 1700 morts. Bilan encore très provisoire dans le centre du pays, très fermé et marqué par des années de guerre civile. Signe de la catastrophe, la junte militaire au pouvoir a lancé des appels à la communauté internationale. Et si quelques organisations étrangères déjà sur place ont pu rapidement s'organiser, pour les autres en revanche, la mission est beaucoup plus complexe. Philippe Besson dirige Pompiers de l'Urgence Internationale, une ONG spécialisée dans le secours aux victimes de catastrophes naturelles. Il répond aux questions de Vincent Souriot.
Bonjour Philippe Besson, vous êtes sur les starting blocks depuis vendredi. Qu'est-ce qui vous empêche d'être déjà en Birmanie pour aider les opérations de secours ?
C'est vraiment un gros challenge. Là, on a une équipe, depuis vendredi matin, l'équipe elle est constituée. Et selon les normes des Nations Unies, on est prêt. Mais on ne trouve pas d'avion, c'est très long. Il faudrait 2 jours pour arriver, 1 jour pour monter par la route. Si on se pose à Rangoon, parce que les 2 aéroports, Mandalay et puis la capitale, ils sont endommagés par le séisme, donc ils sont pas opérationnels. Donc il faut se poser à Rangoon, et de Rangoon pour monter à Mandalay, pour entre 17 et 20 heures de route. Et on peut pas rouler la nuit. Vous voyez, ça retarde encore le truc, quoi.
Et puis il y a des bombardements.
A priori, oui, il y aurait un cessez-le-feu, mais partiel. Il y a des problèmes de sécurité. Plusieurs bâtons dans les roues, là, pour se déployer. Nous, on demande que ça. On y travaille depuis vendredi matin, mais c'est épuisant parce qu'on trouve pas de solution, quoi. On veut bien envoyer 40 sauveteurs, il n'y a pas de problème, mais 40 sauveteurs à 4 000 euros le billet d'avion, vous voyez la facture, quoi.
Il y a des équipes qui sont déjà entrées. Hein. Qu'est-ce qu'elles vous disent de l'organisation de leur travail, de l'accès aux zones sinistrées?
Et les équipes qui commencent à arriver, notamment des équipes asiatiques, parce qu'il y a la Chine, les Russes, les Chinois, Singapour, dont énormément de difficultés pour se déployer. Ce qui devrait par exemple être en place, c'est ce qu'on appelle un centre de réception et de départ des équipes internationales. Un point d'entrée dans le pays de toutes les équipes qui interviennent du monde entier. Et ça, ce point, ils n'arrivent pas à le mettre en place. Ça pose des soucis de coordination. Il y a au moins 80 équipes internationales qui sont prêtes à se déplacer en Birmanie. S'ils disent on accepte l'aide internationale sans donner de précision et que vous avez 80 équipes qui arrivent en Birmanie, ça va être une catastrophe dans la catastrophe. Hein. Vous avez des équipes de différentes tailles, vous avez des équipes gouvernementales, vous avez des ONG, vous avez des équipes qui arrivent et ils sont 5, vous avez des équipes qui arrivent, ils sont 80, et il y a tout ça à gérer. Après, je pense qu'il y a une méconnaissance du système international. La Birmanie soit un petit peu à l'écart.
Votre plus-value à vous, Philippe Besson, si vous parvenez à vous déployer, qu'est-ce que vous allez apporter au secours birman qui pourrait manquer sur place ?
Bon, déjà, on a des chiens de recherche, on a des appareils électroniques pour localisation des victimes, on a des scanners de recherche. du matériel médical qu'on met à disposition. On a toute la partie coordination. On ne peut pas faire n'importe quoi pour pas se jeter sur le premier immeuble qu'on va trouver, au risque de travailler sur un immeuble où il n'y a personne, qui est vide. Donc il y a toute une phase de coordination qui est très importante pour gagner du temps. Se concentrer sur les immeubles où il y a des victimes. C'est tout ça qu'on apporte. Et on apporte, nous, une autonomie complète, hein, parce qu'on a station de potabilisation d'eau, on a un groupe électrogène, on a tout, quoi. Contrairement aux équipes locales qui, à mon avis, doivent manquer de pas mal de choses. Ouais.
Merci beaucoup, Philippe Besson.
Et notez que, à l'instant, Valentin Sébron, correspondant RFI à Bangkok, nous signale qu'une nouvelle réplique de tremblement de terre s'est produite ce matin en Thaïlande. Je vous signale aussi cet appel aux dons lancé par la Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui compte récolter en urgence plus de 100 millions de dollars. Vous pouvez faire un don sur le site croix-rouge.fr. L'invité culture du jour joue avec deux mondes que sur le papier tout oppose, les bruits de l'environnement avec la musique électronique. C'est le monde de Romain Delahaye, plus connu sous le nom de Molécule, un DJ, producteur nomade et aventurier musical qui repousse les limites de la création. Après avoir capté les sons de la banquise ou encore enregistré à bord d'un chalutier les secousses de l'Atlantique Nord, le Français nous fait découvrir sa première œuvre orchestrale, Symphonie numéro 1 Quantique. Molécule est au micro RFI de José Marigno.
Molécule, bonjour.
Bonjour.
Le titre Symphonie numéro 1 Quantique est intriguant. Peut-on y voir une sorte de lien justement entre la science, la musique et les émotions ?
Tout à fait. Le sens profond, c'est de bousculer en fait toutes les connaissances qu'on peut avoir du monde et de notre état de conscience normal. La physique quantique bouscule notre perception du temps. Elle considère par exemple que deux éléments de corps peuvent être à la fois vivants et morts à deux endroits différents. Et j'avais envie d'inscrire cette œuvre qui emprunte à la musique passée et qui se projette aussi dans le futur. Pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé il y a quelques années déjà d'installer mes micros au sein d'un grand orchestre symphonique.
Il est basé à Lille, c'est ça ?
Tout à fait. J'ai assisté à toutes les premières répétitions pendant près de 2 ans et j'ai collecté des sons pour me créer une sorte de bibliothèque singulière. Et avec tous ces sons, je me suis plutôt perdu dans un labyrinthe fait de collages, d'éditions, de sculptages de sons. Et puis avec mes claviers, j'ai travaillé cette matière pour composer entièrement une œuvre pour grand orchestre.
Molécule, ce projet monumental comprend 17 titres. Que représente ce nouveau travail par rapport à tout ce que vous avez fait auparavant ?
J'avais toujours ce doux rêve de m'attaquer à l'écriture orchestrale. C'est une écriture par l'audio, par l'écoute. Je n'écris pas la musique, donc le challenge était vraiment de composer une œuvre symphonique comme ça, par le son. Je me laisse un peu guider, je me fais un peu passeur des émotions que je peux rencontrer, des territoires sonores que je découvre. Et c'est une musique qui se crée assez spontanément, un peu au fil de l'eau. C'est en tout cas mon approche du son, d'essayer de rentrer dans des étapes proches de la méditation pour faire venir les notes.
Molécule, quelle expérience souhaitez-vous faire vivre à l'auditeur à travers ce disque ?
C'est une bonne question. Je cherche à partager une sensibilité. J'ai essayé en tout cas d'être un peu à la crête sur le rebord entre l'harmonie, la dissonance, la tonalité et d'expérimenter. Le thème de la vibration est central, très puissant au sein de l'orchestre. C'est une musique quasiment sacrée. Et donc c'est une œuvre qui aborde ces grands thèmes de la vie, de l'avant, de l'après, de l'au-delà. Et il y a une démarche un peu mystique dans tout ça.
Vous flirtez un peu avec la mort ?
Oui, il y a cette idée de ce thème de la mort qui est latent dans ma propre vie depuis tout petit. J'ai perdu mon père très jeune, j'ai été après adopté, j'ai perdu mon deuxième père adoptif, j'ai perdu des proches assez tôt et c'est vrai que la prise de conscience de la mort est quelque chose qui m'accompagne et qui fait l'homme que je suis aujourd'hui. Et j'ai voulu embrasser ce thème comme étant un peu le sel de la vie, plutôt de l'aborder de manière assez positive. En tout cas, je ne veux pas m'arrêter à cette symphonie numéro 1. J'ai choisi de l'appeler numéro 1 pour qu'il y en ait d'autres.
Molécule, merci beaucoup.
Merci à vous.
Molécule à retrouver vendredi et samedi prochain au festival Fragile. C'est à Aubervilliers en région parisienne. Il reste des places à partir de 33 euros.
Le Conseil Santé avec Sounou Assurance.
C'est une maladie qui a longtemps été ignorée par les médecins. Elle touche pourtant, rien qu'en France, entre 1 500 000 et 2 500 000 femmes en âge de procréer. C'est-à-dire une femme sur 10. On parle avec Laurence Garcia ce matin de l'endométriose.
Bonjour docteur Abdoulaye Diop.
Bonjour.
Gynécologue obstétricien à la clinique Bellevue à Dakar au Sénégal. C'est la journée mondiale contre l'endométriose. Selon l'OMS, 180 millions de femmes dans le monde, soit une femme sur 10, souffrent de douleurs chroniques aiguës au niveau pelvien pendant les règles ou lors de rapports sexuels. Docteur, déjà comment expliquer, comment définir l'endométriose ?
L'endométriose est une maladie gynécologique caractérisée par la présence à l'extérieur de l'utérus de la partie de l'utérus responsable des règles, c'est-à-dire l'endomètre ou la muqueuse utérine. Donc lorsqu'elle se retrouve à l'extérieur, dans les ovaires, dans les intestins, dans les ligaments, ça donne les symptômes comme décrit dans l'endométriose.
Alors les symptômes, les fameuses douleurs, mais pas seulement, hein.
Le maître mot de l'endométriose, c'est évidemment la douleur. C'est douleur spontanée, pendant les règles principalement, pendant les rapports sexuels, quand on va à la selle, pendant quand on vit quotidiennement avec la douleur. Deux autres symptômes seront retrouvés dans l'endométriose, notamment des saignements, des maîtres qu'on appelle les maîtres hémorragiques, qui peuvent survenir spontanément aussi ou pendant les rapports sexuels. Et enfin, l'endométriose est souvent accompagnée de difficultés à enfanter, donc une infertilité.
À partir de quel moment faut-il consulter? Et est-ce qu'il y a vraiment des traitements possibles pour apaiser toutes ces douleurs et ces symptômes?
Oui, la prise en charge de l'endométriose a bien évolué ces dernières années. Il est conseillé désormais, dès qu'on a des règles douloureuses, d'aller consulter pour faire poser le diagnostic le plus tôt possible et de ne pas attendre justement l'installation d'une infertilité des années plus tard pour prendre en charge cette endométriose. Et dès que le diagnostic est posé, des traitements pourront mis en place, soit pour gérer la douleur, soit pour gérer les saignements liés à cette endométriose et surtout pour améliorer les chances de procréer.
Et toujours le rappeler, souffrir autant trop durant ces règles, c'est pas normal. Faut peut-être le rappeler quand même.
Dire simplement qu'avoir des règles douloureuses, ça n'est pas normal.
Voilà.
Si vous avez des règles douloureuses, si elles sont trop douloureuses, si elles sont invalidantes, il faut aller consulter. Ça peut cacher une pathologie sous-jacente, que ce soit de l'endométriose ou autre chose. Donc avoir des règles douloureuses, ça n'est pas normal.
Voilà, il faut le marteler. Merci beaucoup docteur Abdoulaye Diop. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à la clinique Bellevue à Dakar, au Sénégal. Et aujourd'hui, dans Priorité Santé avec Caroline Paré, on parle du fonctionnement du cœur.
Et Priorité Santé, c'est à 9h10, temps universel. Allez, avant le retour de l'actualité africaine, dans moins de 3 minutes, on termine cette demi-heure d'information internationale en musique avec le choix de la programmation musicale de RFI. Ce matin, c'est le franco-gabonais Benjamin Epps avec 375 extraits de son deuxième album, L'Enfant Sacré de Bellevue.
Chez moi, les gars, pape avec les mots. Ils vendraient les gens pour un euro. Vigilant ici, l'amour est space. Vigilant dans nos têtes, c'est les states. Yeah. La rue peut t'avaler pour de bon. À critiquer, les gros se font un nom.
Non.
T'es vu comme un païen quand tu lis. Négro, attention à ce que tu dis. Sinon, tous les liens tissés s'écroulent. L'amitié, c'est fragile, mais c'est cool. Lâchez la school, traîner au tiex avec Doudou et Doul. Combien les matins, mes négros sont agiles au mouvement de foule. Quand y'a pas à manger, place des sables.
Non.
Quand y'a pas à manger, arrache des sacs. Ces gens sont les gosses pour qui je prie. Ce coin du monde a fait de moi qui je suis.
Viens, je t'emmène chez le jeune, là où cette chaîne de vie est moche. Chaîne de vie qu'on aime. Wow.
5 gosses de 5 pères différents. Ça n'est pas étrange, c'est juste différent. La bouteille est vide et l'esprit est vil. Donc le petit est Yves, mais le petit est big. Les études c'est bien, mais c'est trop long.
Non.
Ce qui va t'aider l'ami, c'est ton nom. Ce que tu fais, qui tu connais, qui tu baises. Est-ce que t'es en place, est-ce que tu pèses?
Yeah.
Viens voir autour, ça sent la pisse et les poubelles dans la street. Les individus pour eux. Les gens n'ont rien à faire de tes discours à la fin. Ce sera toujours qu'est-ce que tu vas faire pour eux. Comment tu traites les tiens, c'est révélateur. On méprise les faibles et les délateurs. Pistolet bien au chaud, donc il est froid. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient.
C'était Benjamin Epps sur RFI. Il sera en concert vendredi à Bulle en Suisse, samedi à Mâcon en France. Il passera également par Toulon, Nice et Paris le 20 novembre prochain à la Gaîté Lyrique. Restez avec nous sur la radio du Monde dans moins d'une minute. Un nouveau journal.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement, l'information quand vous voulez.